Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Une icône vient de prendre congé d'ici-bas. L'acteur Peter Fonda, incarnation de la contre-culture américaine, est mort, empreinte d'une légende Gregory Phillips. Repenser les règles du commerce des espèces animales et végétales menacées d'extinction, c'est l'ambition d'une conférence internationale qui s'ouvre aujourd'hui à Genève. Le Mexique s'inquiète de l'avenir du crocodile d'Amérique. Explication de Tara Schlegel. Également au sommaire, le portrait de l'avocate et militante des droits de l'homme Lyubov Sobol. Libéraux et communistes sont une fois de plus dans la rue ce samedi à Moscou. Enfin en France, la réaction de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, après que l'arbitre du match de Ligue 2, Nancy Le Mans, a interrompu la rencontre à la suite de chants homophobes attribués à des supporters du club de football nancéen. En l'honneur de Peter, portez un toast à la liberté, s'il vous plaît. Ainsi, la famille de Peter Fonda nous invite-t-elle à rendre hommage à l'acteur américain décédé la nuit dernière. Il est parti en riant, précise sa sœur Jane. Indélébile restera la pose de Wyatt, rôle culte d'un film légendaire, Gregory Phillips.
En juillet 1969, un mois avant le festival de Woodstock dont on fête ce week-end le 50e anniversaire, sort sur les écrans ce film écrit par Dennis Hopper, Terry Southern et Peter Fonda. Easy Rider raconte l'odyssée de deux motards entre Los Angeles et la Nouvelle-Orléans. Le film marquera toute une génération, celle des hippies, alors que Peter Fonda baigne depuis quelques années déjà dans cette contre-culture. Quatre ans plus tôt en Californie, c'est lui qui inspire à John Lennon la chanson She Said sur l'album Revolver, alors qu'en plein trip lié au LSD, Fonda a dit à son ami Beatles que maintenant il sait ce que c'est que d'être mort. Peter Fonda était le fils de l'acteur Henry Fonda. Il était aussi le frère de Jane Fonda et le père de Bridget, une lignée royale hollywoodienne. En 50 ans de carrière, Peter Fonda se verra ensuite offrir de nombreux rôles à la télévision et au cinéma. Mais l'image qui restera de lui, c'est celle de Wyatt dans Easy Rider, au guidon de son chopper Harley Davidson, cheveux au vent, avec le drapeau américain peint dans le dos et sur le réservoir de sa machine, et la musique du groupe Steppenwolf.
Peter Fonda ne s'est pas contenté de briller à l'écran et d'incarner la révolte de toute une génération. Militant écologiste de la première heure, il a combattu ceux qu'il considérait comme les grands prédateurs économiques de la planète et leurs valets, les chefs d'État et de gouvernement. Si Donald Trump n'a pas été épargné, son prédécesseur Barack Obama peut se prévaloir d'avoir été qualifié par Peter Fonda, je cite, de putain de traître, en lui reprochant sa gestion d'une marée noire dans le golfe du Mexique provoquée par le naufrage de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, Born to be Wild jusqu'au bout. Le Mexique, justement, dont les autorités vont demander ce samedi à Genève que l'on déclassifie une espèce de crocodile dont le commerce protège, paradoxalement, la pérennité, demande formulée dans le cadre de la conférence sur la protection des espèces sauvages menacées d'extinction, initiée par la CITES. 11 jours de débat, 183 pays représentés, tous membres de l'organisation internationale qui régule le commerce de la faune et de la flore en danger. L'objectif est donc de modifier le degré de protection accordé par la CITES à certains animaux et plantes sauvages afin d'assurer leur survie dans la durée. Certains animaux dont, Tara Schlegel, le crocodile d'Amérique.
Depuis 1975, le crocodile d'Amérique est classé dans l'annexe 1. Autrement dit, son commerce est interdit. Le Mexique va demander aux États et aux experts de bien vouloir déclassifier ce grand reptile, ce qui peut se comprendre, explique David Oudjani. Il travaille pour l'Union internationale pour la conservation de la nature, un organisme qui conseille la CITES depuis sa fondation.
Alors bien entendu, il reste annexé à la CITES. C'est des animaux qu'il ne faut pas braconner. Mais le Mexique a démontré qu'une exploitation raisonnée dans le cadre d'un développement durable était possible. Donc la CITES a déclassé déjà le crocodile de Morlaix en annexe 2 pour permettre son exploitation il y a quelques années. Et le Mexique maintenant demande le déclassement de la seconde espèce qui est le crocodile d'Amérique en ayant démontré que c'était plutôt bénéfique en termes de politique de conservation.
Ce biologiste rappelle que parfois une interdiction totale de commerce est plus dangereuse que bénéfique. Pendant les 11 jours que dure la conférence, sorte d'organe qui légifère mondialement pour la protection des animaux et des plantes, chaque groupe de travail se penchera sur sa thématique. Et il faudra alors peser le pour et le contre, résume David Oudjani.
Une conservation qui correspond à une mise sous cloche sans prendre en compte les besoins et les habitudes locales est vouée à l'échec. Donc, dans certains cas, l'exploitation peut permettre, si c'est bien géré par l'État et que les fermes ont des vrais contrôles très stricts, de réinjecter dans l'économie des fonds qui permettent, par exemple, de sanctuariser des zones sauvages.
Car il faut de l'argent pour organiser les politiques de conservation, mais on l'aura compris, tout dépend des sanctions qui encadrent la vente des animaux menacés. Ainsi, pendant des années, Madagascar, par exemple, n'a pas eu le droit de vendre la peau des crocodiles du Nil, une espèce particulièrement en danger.
Tara Schlegel, on sait combien la biodiversité est en danger à l'échelle planétaire, danger dû aussi bien à la destruction des habitats qu'au braconnage ou au commerce illégal. Le trafic illégal d'animaux et de plantes génère, faut le savoir, environ 20 milliards de dollars par an. À Hong Kong, plusieurs milliers d'enseignants défilent sous la pluie à la veille d'un rassemblement envisagé par le Front civique des droits de l'homme dans le parc Victoria. Ce collectif est à l'origine des mobilisations qui, depuis le mois de juin, portent le mouvement pro-démocratie et son refus de l'érosion du principe « un pays, deux systèmes ». C'est l'une des personnalités charismatiques de l'opposition russe. L'opposition de nouveau dans la rue à Moscou, communistes et libéraux ont appelé à manifester toujours après l'exclusion de candidats indépendants aux élections locales. Lyubov Sobol, avocate et alliée de l'opposant Alexei Navalny, chantre de la lutte anticorruption, se bat pour que les citoyens puissent faire valoir leurs droits et n'hésite pas à se mettre en scène dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Samedi dernier, quelques heures avant le début de la manifestation autorisée, la police forçait le bureau de Lyubov Sobol pour l'arrêter.
Il casse la porte, mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. S'il vous plaît, contactez mon avocat et je vais poursuivre mon activité politique.
En gros plan, façon selfie, l'opposant a filmé son interpellation. Une vidéo qui a fait le tour de la toile et qui montre la détermination de cette avocate. Elle entend continuer à défendre le droit des moscovites à élire les représentants de leur choix et non pas des candidats sélectionnés par les autorités, tout en prenant soin de se placer au service d'une cause sans défendre d'intérêt personnel.
Les gens ne sortent que pour leurs idées. Ils ne se confrontent pas aux matraques pour de l'argent ou pour quelqu'un d'autre.
Pendant plusieurs semaines, Lyubov Sobol a fait une grève de la faim, consciente du fait que Vladimir Poutine n'accepte pas de céder à ce type de chantage. Elle n'hésite pas à impliquer le président russe dans la réponse qu'elle fait à ceux qui l'accusent de mettre sa vie en danger.
Je fais quelque chose en quoi je crois et je crois que je le fais bien. Je pense que Poutine tue notre pays et que c'est une mort lente.
Cette semaine, elle a toutefois mis un terme à sa grève de la faim. À défaut de pouvoir la mettre en prison, la justice russe la condamnera à de lourdes amendes en raison de son militantisme.
Au Yémen, des avions de la coalition arabe sous commandement saoudien ont tiré des fusées éclairantes à l'aube sur la ville d'Aden, à proximité de bases militaires occupées depuis une semaine par les forces séparatistes, financées pourtant par les Émirats Arabes Unis. Des forces séparatistes qui se seraient retirées de plusieurs bâtiments publics qu'ils avaient récemment pris à Aden, justement, aux forces loyalistes yéménites. Information livrée il y a quelques minutes par un membre du gouvernement. Il est 12h38, vous écoutez le journal de France Culture. L'homophobie dans les stades, un venin sans sérum. Hier soir, le match de Ligue 2, Nancy-Le Mans, a dû être brièvement interrompu après que des supporters du club nancéen ont articulé des chants homophobes. Ce n'est malheureusement pas une première. En revanche, la décision de l'arbitre de se saisir du ballon en pleine rencontre est inédite. Et c'est ce que tient à souligner la ministre des Sports, chargée par le président de la République de tout mettre en œuvre pour en finir avec ses propos haineux. Roxana Maracina à nous.
C'est dommage que le championnat commence de la sorte. On est à 2 jours du début et déjà on entend ce genre de choses, ce genre d'actualité. Maintenant, c'est très rassurant, positif que le speaker, le corps arbitral ait pris ses responsabilités, leurs responsabilités. Je pense avoir été entendue parce que pour en avoir discuté avec des arbitres que j'ai pu rencontrer depuis ma prise de position, ils sont tout à fait heureux aussi qu'on ait pris la parole là-dessus et qu'ils puissent appliquer en fait le règlement puisque c'est inscrit dans le règlement qu'il y a la possibilité d'interrompre les matchs pour des cris homophobes pour de telles manifestations. À partir du moment où la Fédération française de football et la Ligue ont aussi pris leurs responsabilités là-dessus, je pense que les arbitres vont appliquer effectivement la règle. Ce sera explicitement écrit puisque ça ne l'était pas vraiment dans le règlement que ces cris homophobes étaient répréhensibles. On disait toutes autre sorte de discrimination. À partir du moment où ce sera clairement écrit, il n'y aura pas de problème pour l'appliquer, je pense.
Des propos recueillis par Jules de Kiss. La météo de l'après-midi en quelques mots, temps pluvieux au nord, ensoleillé sur la moitié sud, température maximale comprise entre 20 et 35 degrés. Cette édition a été préparée avec M. Le Chili à la technique Jean Frédérix.